Nous bénissons le Seigneur. C'est vrai que quand nous chantons, nous proclamons des paroles que nous sommes censés méditer aussi. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Voilà que nous avons commencé le deuxième mois de cette année 2024. Et que chaque année étant particulière, lors de mon précédent voyage la semaine passée, pas celle-là, mais celle d'avant, j'étais aussi en formation pendant toute une semaine. Et c'est vrai que l'une des choses que j'ai retenu beaucoup de choses de cette formation, mais en tout cas, l'une des choses par rapport à la prédication dans l'Église, une des choses que j'ai compris, c'est que nous sommes, pour nous qui sommes dans des pays libres, nous avons cette grâce d'être tous les dimanches à l'église, nous sommes quand même riches de tous les enseignements que nous pouvons recevoir dimanche après dimanche. Et quelqu'un me rappelait encore vendredi qu'elle se souvient d'une prédication que j'ai donnée il y a quelques années et que ça l'a marqué. Et donc je réalise que Dieu, au travers de tous les prédicateurs, tous les enseignements, enseigne ses enfants. Après, la question, c'est comment nous digérons tous ces enseignements dimanche après dimanche? Comment nous mettons ces enseignements ensemble pour qu'ils nous fassent grandir et qu'au bout du bout de l'année, nous puissions dire « Merci Seigneur, cette année, j'ai grandi dans tel ou tel domaine. » Parce que si le Seigneur donne des enseignements dimanche après dimanche à nous qui prêchons, c'est pour vous faire du bien, c'est pour nous faire du bien, c'est pour que nous soyons construits, édifiés, donc que nous soyons en croissance. Dans nos vies humaines, nous savons quand l'enfant est né et nous le voyons grandir. Et des fois, nous les parents sommes bien étonnés de voir comment les enfants qui étaient hier tout petits prennent des centimètres. Et du coup, des fois, arrive à nous dépasser. Et tu es là, tu dis, oulala, déjà cette taille-là, ils deviennent des pré-ados, ensuite des ados, des jeunes, des beaux jeunes hommes, de belles jeunes femmes qui grandissent, on dit, waouh. Et quand ils deviennent des adultes, alors, là, vous dites, ouais, j'ai pris un peu de lâche. Mais nous pouvons voir cette croissance. Et il me semble que ça doit être pareil dans la vie spirituelle. L'apôtre Paul a eu cette image en disant à l'une des églises, au stade où vous êtes arrivé, vous ne devriez plus être au lait maternel. Vous auriez dû manger de la nourriture solide. Parce que, à mon avis, vous n'êtes plus des bébés, vous êtes des adultes. Et pourtant, je suis encore à vous donner du lait maternel. Il dit, c'est pas normal. Comment pouvons-nous faire en sorte que des constats comme cela ne soient pas mis sur nos vies? C'est justement en faisant souvent le point de tous les enseignements que Dieu nous donne et de voir quels sont ceux que nous avons commencé à appliquer. Et j'aimerais, en ce premier dimanche de février, faire le point avec nous de ce que nous avons pu recevoir ce premier mois de janvier, de cette série de prédicateurs qui est passée depuis le 7 janvier jusqu'au dimanche dernier, le 28 janvier. Qu'avons-nous retenu? Émile, le 14 janvier, si vous en souvenez encore, a prêché sur le thème « Le bonheur ». Le bonheur. Il nous a, en ce début d'année, il nous a encouragé à bien définir ce que la Bible appelle le bonheur. Ce que j'ai compris, moi, en réécoutant le message de notre frère Émile, c'est que si le curseur n'est pas sur la bonne définition du bonheur, on peut passer toute une année à être malheureux. Si on n'a pas mis les bons critères pour apprécier le bonheur selon Dieu, on peut passer une année à être malheureux. Et c'est toujours bien de redéfinir. Donc, Émile nous a aidé à redéfinir les choses avec plusieurs textes, mais je nous propose de nous rappeler de ces trois textes-là. Jacques, chapitre 1. Je lirai du verset 19 au verset 25. Vous avez juste le verset 25. Psaume 119. Il a lu plusieurs versets dans ce psaume. Je lirai le psaume, le verset 16. Et puis, Deutéronome, chapitre 5, verset 27 à 29, en mettant l'accent sur le verset 29. Jacques chapitre 1, partie du verset 19. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Verset 22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui s'est observé dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Et Émile avait mis l'accent sur la fin de ce verset 25. Cet homme sera heureux, cette femme sera heureuse dans tout ce qu'il fait. Si cette parole est parole de Dieu, elle doit nous parler, elle doit être pour nous. Psaume 119, verset 16. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Je trouve un grand plaisir dans tout ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Deutéronome 5, versets 27 à 29. Va donc toi-même t'approcher. Tu écouteras tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, puis tu nous le répéteras. Nous l'écouterons et nous obéirons. Verset 28. L'Éternel entendit vos paroles pendant que vous me parliez, et il me dit, j'ai entendu ce que t'a dit ce peuple, et je l'approuve pleinement. Verset 29. Si seulement il pouvait garder ces mêmes dispositions à me révéler et à suivre tous les jours, tous mes commandements, afin qu'eux et leurs descendants soient heureux pour toujours. Si seulement ils pouvaient garder cette même disposition de cœur, c'est-à-dire l'obéissance. Si seulement ils pouvaient continuer à me faire confiance, à m'adorer, à me révérer. Si seulement ils pouvaient tous les jours suivre mes commandements, non seulement ils seraient heureux, mais leurs descendants aussi seraient heureux. Quelle application Émile nous a laissée et qui devrait faire partie de ce que nous allons garder ou appliquer ou que nous avons déjà commencé à appliquer? Un homme, une femme qui plonge les regards, qui étudie avec attention, qui scrute la loi parfaite. La loi parfaite, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Cet homme-là, cette femme-là, qui demeure fidèle, qui demeure attaché fidèlement à l'obéissance, à l'application de cette parole-là, cet homme-là, cette femme-là, qui ne fait pas l'auditeur oublieux, une fois sorti, une fois la semaine commencée, on se souvient plus du texte du dimanche, on se souvient après, on se souvient pas que Dieu l'a donné pour le pratiquer. Cet homme-là, qui ne l'oublie pas, après l'avoir entendu, mais qui y conforme ses actes, c'est-à-dire qui prend soin de commencer à appliquer dans sa vie ce qu'il a entendu dans ses actes, pas juste dans la parole, mais dans ses actes. Cet homme-là, cette femme-là, sera heureux, sera heureuse dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'elle fait. C'est une promesse que Dieu nous donne. C'est une promesse. C'est une parole sûre. La parole de Dieu est oui et amen. Le bonheur est dans l'obéissance au Seigneur. Il nous l'a bien rappelé. Que la définition du bonheur selon notre monde, c'est quand tout va bien. Quand tout roule comme sur des roulettes. Quand la mer est calme. Or, c'est une utopie. Nos vies ne sont jamais linéaires. C'est pas possible. Nous vivons dans un monde qui a été atteint par le péché et tôt ou tard, dans notre itinéraire de la semaine, du mois, de l'année, nous rencontrons aussi quelques épreuves. La garantie que ces épreuves ne nous submergeront pas, c'est le bonheur que nous avons avec Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est de rester attaché au Seigneur Jésus. De scruter, de laisser nos regards, de plonger nos regards, d'étudier, de méditer la loi parfaite. La parole de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Jésus a dit, on ne peut ni ajouter ni enlever, ne serait-ce qu'un point, parce qu'elle est parfaite. Il n'y a rien à y rétrancher, il n'y a rien à y ajouter. Il faut que le Seigneur nous aide. Je prie donc que nous ayons commencé, sinon que nous ayons continué à être des enfants de Dieu obéissants, de ceux qui pratiquent la parole de Dieu, de ceux dont Jésus a dit, heureux ceux qui écoutent, mais ceux qui écoutent pour pratiquer. Où en es-tu avec la pratique de la parole de Dieu? Le bonheur, selon Dieu, est attaché à cette obéissance-là, même pour les plus anciens d'entre nous, même pour les plus vieux d'entre nous. Voilà l'une des leçons que Dieu nous a données au cours de ce premier mois. Alors, où en es-tu? Où en es-tu avec cette obéissance? Et c'est dans tous les actes de nos vies, dans tous les compartiments, dans toutes les relations, que Dieu nous aide à être heureux d'être des enfants obéissants. C'est étonnant. Les dimanches, je fais toujours un tour à l'école le dimanche pour aussi encourager, me laisser aussi instruire. Et ce matin, ils ont une animation, donc ils sont en train de regarder une vidéo. Et le thème, c'est l'obéissance. Les enfants, obéissez à vos parents. Et nous, les parents, on dit ça à nos enfants. Et nous aussi, on a un parent qui est aux cieux, qui s'appelle Dieu. Et il aimerait bien que de temps en temps, nous soyons des enfants obéissants. C'est le secret du bonheur que nous a enseigné Émile le 14 janvier. Le 21 janvier, avec notre frère Raymond, le chrétien doit courir avec un but dans sa vie. Mais il doit courir avec un but de manière à gagner le prix. Voilà comment il a commencé cet enseignement le dimanche 21. Avec plusieurs textes, mais je vous en propose deux. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, et Philippiens 3, verset 12. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner le prix, et cependant, un seul remporte le prix. Il dit, courez comme lui, de manière à gagner le prix. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas comme donnant des coups dans l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur que après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Philippiens 3, verset 12. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Parce que le Christ, Jésus, m'a déjà saisi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Le chrétien doit courir avec un but dans sa vie de manière à remporter le prix. Application. Est-ce que tu vas changer en progressant dans ta manière de vivre ta vie chrétienne? Il nous a dit qu'au début de l'année, on prend de bonnes résolutions. Et on était en janvier. Il nous a invités à peut-être ne pas faire par habitude, puisque janvier, on fait tout ça, on prend des résolutions. Mais peut-être de bien mettre le curseur sur nos bonnes résolutions. Comment vas-tu courir ta vie chrétienne cette année? Et il nous a invités à ne pas courir n'importe comment, mais à courir comme ceux qui courent pour remporter. Il a dit, ce n'est pas une concurrence, c'est un marathon. Rassure-toi que tu cours de façon à remporter le prix selon le chemin que Dieu t'a tracé. Selon le chemin que Dieu t'a tracé. La Bible dit, car chacun selon le don de foi que Dieu lui a donné. Selon le chemin que Dieu t'a tracé. La vie chrétienne est une discipline de tous les jours. C'est une discipline. Une discipline, malheureusement, nous on la définit d'abord négativement. Mais non, la discipline n'est pas d'abord quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui nous construit, c'est quelque chose qui nous édifie, c'est un cadre qu'on met pour justement évaluer comment on avance dans la vie. Discipliner un enfant, c'est pas d'abord le corriger, c'est l'instruire. C'est lui donner un cadre. C'est lui donner comment progresser. La discipline, c'est ça. Les athlètes le savent trop bien. Ceux qui sont dans les corps de métier le savent trop bien. Si une sage-femme, un médecin, dans ces corps-là, qui travaillent sur nos vies, n'ont pas une certaine discipline, qu'elles s'occupent de nous, ils savent bien le risque qu'il y a dessus. Le risque qu'il y a sur la vie. Du passé. Courons donc les bien-aimés. Ne t'arrête pas. T'es-tu arrêté dans ta marche chrétienne? Non. 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 Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Là, il ne dit pas marcher, non, il dit courir. Et l'apôtre Paul, au moment où il écrit cette lettre, aux Philippiens, il est déjà bien dans la foi, serviteur de Dieu, lui dit, je cours. Il aurait pu dire, moi, j'ai fait mes preuves, je suis l'apôtre Paul, j'ai plus besoin de courir. Vous savez qui je suis, vous savez tout ce que j'ai fait, vous savez d'où je viens, mon témoignage. Il dit, mais non, je fais une chose. Laissons ce qui est en arrière, fixant les regards vers Christ, avec toute mon énergie, je continue ma course. Je continue ma course. Bien-aimé, des fois, il y a des obstacles, il y a des épreuves. Mais justement, la course, l'autre nom d'une course, c'est les épreuves, puisqu'une course, c'est une épreuve physique. C'est une épreuve physique. Et notre vie est une épreuve, mais dans le bon sens du terme. Plus nous sommes persévérants, plus nous résistons, avec la grâce de Dieu, plus nous franchissons des palais. Dans notre monde, on nous fait des évaluations pour voir si nous sommes arrivés à un palier supérieur. C'est ça le type des évaluations. C'est pas pour nous donner un 0 ou un 10, c'est pour voir si tu as acquis les capacités, les aptitudes pour aller au niveau supérieur. Et avec Dieu, c'est pareil. Plus nous avançons, plus il veut que nous avancions dans les niveaux supérieurs, que nous allions en eau profonde avec lui. Que nous nous rapprochions plus de lui. Quelqu'un qui court, est-ce qu'il se rapproche plus de la ligne de départ ou de la ligne d'arrivée? Ben, ça dépend dans le sens dans lequel il court. Je fais une confidence. Bon, un peu moins maintenant, j'aime beaucoup les jeux vidéo. C'est l'une de mes passions avec les garçons. Deux types de jeux, toujours des jeux sport ou aventure, pas les autres. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui est automobile, et que je ne peux pas faire du rallye, parce que voilà, j'ai pas les moyens, au moins dans le jeu vidéo, je me transporte dans le rallye. Et des fois, t'es sur une course, t'es très concentré, mais en fait, t'as pas fait attention, tu as plus le mauvais sens. Et le jeu, en fait, il te met un signal pour que tu le saches. Mais si, comme t'es tellement concentré, que t'as pas entendu le signal, tu continues à 220 à l'heure, mais en fait, t'es dans le mauvais sens. Et au moins, tu te rappelles que dans le mauvais sens, le premier, il est déjà arrivé de l'autre côté. Donc, t'as perdu le jeu. Et des fois, ça nous arrive, nous, dans notre quartier. En fait, on n'a plus le mauvais sens, mais on est tellement la tête dans le guidon. Que malgré toutes les alertes que le Saint-Esprit nous envoie, on fonce dans le mauvais sens. On se rapproche plus de la ligne de départ qu'on avait quittée que de la ligne d'arrivée. Mon frère, ma soeur, rassure-toi que ta course est toujours dans le bon sens. Rassure-toi que tu es en train de courir toujours dans le bon sens. Qu'est-ce qui peut faire nous dévier? Parfois, c'est les bénédictions de Dieu. Tellement on est béni qu'il nous arrive de nous écarter de Dieu. Des fois, c'est de gros soucis, c'est des épreuves, c'est des obstacles terribles qui nous mettent dans un stress pas possible et qui nous fait faire un demi-tour sans que nous nous en rendions compte. Et nous sommes convaincus d'être dans le bon sens alors qu'on a fait demi-tour. Si c'est ton cas, lève-toi, change de direction, reviens dans la course et continue de courir. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont dans la bonne direction, faisons comme l'apôtre Paul. Il dit, je ne m'appuie pas sur mes lauriers. Je ne dis pas que j'ai déjà tout fait. Je ne dis pas que Seigneur regarde tous les trophées que j'ai eu. Il dit non, laissant ce qui est en arrière. Fixant les regards vers Christ avec toute mon énergie. Ah, je continue de foncer. Bien-aimés, continuons de foncer. Continuons de courir. La vie chrétienne appelle la discipline. La discipline, c'est d'être là tous les dimanches. Ça, c'est une discipline spirituelle. La discipline, c'est de méditer régulièrement la parole de Dieu. La discipline, c'est de prier régulièrement. Et l'Église nous donne aussi la possibilité de prier ensemble les mardis. La discipline, c'est de faire l'effort. Lorsque j'entends une parole, lorsque je médite une parole, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à la pratiquer, à la mettre en application. Des fois, ça ne sert pas à grand-chose d'accumuler sans avoir commencé un début d'application de quelque chose. On est devenus, nous tous, un peu, dans des moments particuliers, à la recherche de l'enseignement, du fameux enseignement qui va me mettre dans l'électrochoc. Mais tout ce que tu as reçu depuis mon frère et tout ce que tu as reçu depuis ma soeur, regarde, si tu commences à les pratiquer, tu vas voir le bonheur à Dieu. Tu vas voir ce que tu vas en faire. Il dit, si vous êtes fidèles à les petites choses, je vous en confierai des grandes. Commençons par vivre, par continuer de vivre les petits commandements que Dieu nous a donnés. Et il a continué dimanche dernier, Raymond, à nous inviter à fixer les regards justement sur le grand Dieu. Le grand Dieu. Parce que Dieu fait de grandes choses. Et nous a invités à faire attention parce que parfois, notre vie chrétienne réduit ce Dieu, le grand Dieu, le Dieu de l'univers, à quelqu'un d'impuissant, à quelqu'un d'incapable, à quelqu'un finalement qui est juste bon à être honoré du bout des lèvres. On dit beaucoup qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est majestueux, mais dans la fête, on ne vit pas cette grandeur de Dieu. Donc, il nous a invités en lisant le psaume 145 et Colossiens 3, 15 à 17. Et nous faisons la lecture du psaume 145, versets 1 à 7. Louange de David, je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi. pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Tous les jours, je te bénirai et je louerai ton nom à tout jamais. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable et je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On criera ta justice. Amen. Colossiens 3, 15 et 7 et 15 et 17. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Nous sommes invités, bien-aimés, à application. Nous sommes environnés de sa grandeur. Nous sommes environnés de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas juste un psaume. Un psaume est une parole donnée à un auteur humain par le Saint-Esprit pour que les enfants de Dieu s'en servent comme des promesses qui s'accomplissent. Si Dieu est grand, c'est parce qu'il fait de grandes choses. Et il n'a pas fini de faire de grandes choses dans ta vie, ni dans ma vie. Il n'a pas fini. Et nous sommes environnés de sa grandeur. Mais n'oubliez pas que le point de départ, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est l'obéissance à la parole. C'est pas d'abord le bien matériel que Dieu nous donne. Ça vient aussi, ça. Et il nous bénit aussi de ce sort-là. Mais c'est premièrement cette obéissance à Dieu. Nous sommes invités à expérimenter chaque mois la grandeur de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament, notamment le dernier, a dit, dans la bouche du qui Dieu a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si, et vous verrez quoi? Si je n'agis pas. Que Dieu nous encourage. Il veut que nous expérimentions sa grandeur. Et Raymond nous a encouragés à expérimenter la grandeur de Dieu. Et Dieu est grand, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Dieu est grand, mais l'homme n'est pas petit aussi. Mais ça veut dire que des fois, on prend la place de Dieu. Des fois, que Dieu nous aime. Il est omnipotent, ça veut dire il fait tout. Il est omniprésent, ça veut dire il est partout. Il est omniscient, ça veut dire il sait tout. Il est tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout faire. Et la Bible dit que rien ne lui est impossible. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est un carburant dont les chrétiens, on a besoin de ce carburant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le grand Dieu. Il est le grand Dieu. Il est le grand Dieu. Expérimente la grandeur de ton Dieu. Expérimente la grandeur de ton Dieu. Tous les jours, je te bénirai et je louerai ton nom à tout jamais. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits. Donnez-moi une vue. Je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable. Et je raconterai tes refaits. Bien-aimé, la vie n'est pas toujours simple. Mais Dieu est grand. Ne l'oublions pas. Vivons-le. Il est le Dieu des miracles. C'est lui qui veut nous étonner. Fais-lui confiance. Et enfin, servis l'Éternel avec joie. Ça, c'était le premier dimanche de l'année. Le dimanche 7 janvier, c'était moi qui nous avais encouragés en nous appuyant sur le texte d'Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers à notre foi. Par lui, verset 15, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Et n'oubliez pas de pratiquer la bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire la solidarité et l'entraide, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Comment être reconnaissant à Dieu pour le salut par la grâce? Comment être reconnaissant? La Bible dit que notre salut, ce n'est pas par nos œuvres, c'est les œuvres de Jésus-Christ. Et finalement, il nous fait grâce. Comment être reconnaissant? C'est de le servir. C'est d'avoir cette capacité que Dieu nous donne de façon particulière pour discerner et accomplir les tâches pratiques, prioritaires pour le corps de Christ qui est l'Église, pour que cette Église atteigne ses objectifs vis-à-vis de Dieu et du prochain. Servir Dieu, c'est s'engager dans l'Église. Vous savez, l'Église, c'est l'Église de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est lui qui a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et même le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. 2000 ans ont passé, et l'Église est là. Et le séjour des morts n'a pas eu raison de l'Église. L'Église est bien présente dans le monde. Si vous connaissez une petite histoire de l'Église, elle a été malmenée, l'Église. Des fois, elle a été sentie éradiquée, mais elle a toujours poussé quelque part. Il y a des contrées où les chrétiens ont été tués, martyrisés. Et ceux qui faisaient ce martyre disaient, mais c'est incroyable. Plus on en tue, plus d'autres se lèvent pour dire on croit en Jésus. On croyait qu'en les tuant, tout le monde aurait eu peur. Mais plus on en tue, plus il en sort. Des gens qui disent ils croient en Jésus. Nous ne savons pas des fois l'ampleur du privilège qu'est le nôtre. Et moi le premier. Que Dieu, comme le dit l'Épître aux Éphésiens, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous voyions l'immensité de l'amour de Dieu. Sa hauteur, sa profondeur, sa largeur, sa grandeur. Qu'il nous ouvre les yeux et que nous voyons le privilège que nous avons, ce bonheur de lui obéir, de courir la bonne course, le bon but, en fixant le regard vers Christ, en ne lâchant rien. Vous savez, dans les grèves en France ou dans les compétitions, on dit « je ne lâcherai rien ». J'entendais ce refrain pendant toute une année, au bas de notre immeuble, puisqu'il y avait le collège et les enseignants, pendant une année, on était en grève. Et à chaque fois, ils venaient avec la mégaphone de 10h, « on lâche rien !»« On lâche rien !» Que Dieu nous aide à rien lâcher. L'ennemi de notre foi, son travail, c'est de saboter la confiance en Dieu. C'est un saboteur. Vous savez le saboteur ce qu'il fait? Quand vous avez construit quelque chose la nuit, il vient, il casse pas tout, hein, le saboteur. Il dérange une pièce seulement. Parce qu'il sait que s'il dérange cette pièce-là, quand vous allez revenir le matin, ah, rien ne va fonctionner. Et vous allez chercher, mais tout est là, tout est en place, mais, et puis vous êtes paniqué. C'est ça un saboteur. Ou quand vous avez construit, il passe la nuit, et il détruit derrière vous. Et vous êtes effondré parce que vous dites, j'ai passé toute ma vie à faire ça. Et ça s'est effondré. Et il sabote votre confiance en Dieu. Sabote. On lâche rien dans le nom de Jésus. On lâche rien. Bien-aimé, ne lâche rien. Ma soeur, ne lâche rien. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Il est le grand Dieu parce qu'il fait de grandes choses. Il n'en a pas fini avec toi. Il n'en a pas fini avec moi. Car ses compassions se renouvellent chaque matin. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Le psaume 121 dit, car celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel veille sur son peuple. Il veille sur toi, mon frère. Il veille sur toi. Ne laisse pas l'ennemi t'embrouiller. Ne laisse pas l'ennemi t'embrouiller. Ne laisse pas le découragement de ta propre nature t'embrouiller. On est des humains, comme m'a dit une sœur ce matin. On est des humains. Et notre nature, parfois, elle nous embrouille parce que on est limité, on est faible aussi. Des fois, on est très faible. Et là, on se dit, ça va pas le faire. Comment je vais m'en sortir? Il est au contrôle. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas juste une parole, bien aimé. Vous voyez, j'ai fait le tour de ces trois prédicateurs du mois de janvier. Et nous, les évangéliques, ce qu'on aime faire, c'est que des fois, on aime se concerter, mais des fois, on veut que le Saint-Esprit nous conduise. Donc, du coup, des fois, on se concerte en tant que prédicateur pour dire, voilà, on l'a fait le mois dernier, on s'est assis, on a planifié en gros l'année. Mais en général, on aime que Dieu nous parle chacun et on voit comment il construit les choses pour son Église. Bien-aimé, ici, Dieu nous a parlé. Le bonheur, courir avec un but. Le grand Dieu, servir avec les gens. On lâche rien. On lâche rien. Il va nous étonner. Il va nous étonner. Et il a déjà fait. Et je vais inviter deux personnes à témoigner maintenant pour vous montrer que ce qu'on dit là, Dieu le fait vraiment. Je vais inviter Iras d'abord à témoigner. Et ensuite, Janine aussi. Tu viens, Iras? Alléluia. Merci, Seigneur.
Bonjour, frères et sœurs. C'est pas mon anniversaire, mais je viens pour témoigner ce que Dieu il a fait dans ma vie et dans la vie de mes enfants et mes épouses. Donc, moi je dis c'est une coïncidence. Le pasteur, il a dit tous les messages que je dois parler. Et Frédéric aussi. C'est là que j'ai tremblé. Donc, j'ai dit, Dieu, c'est un Dieu grand. L'Esprit témoignait à notre esprit. Vous savez, dans Job 33, 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une autre, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Dieu, il parle. Il parle encore. Je ne serai pas trop long, ni pas trop court. Mais ça veut dire, dans d'autres termes, je serai au milieu. La Bible, il a dit, dans les psaumes, c'est une parenthèse, j'ai ouvert, après je vais le fermer. Dans les psaumes 22, David, il a dit, je suis dans la joie quand on dit, allons dans la maison de l'Éternel. Le matin, le dimanche, je suis content. J'ai sauté comme une chèvre pour aller dans la maison de l'Éternel. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Je vais dire mon témoignage. Je vais dire ce que Dieu a fait pour moi. Alors, ce n'est pas la peine de dire mon nom, on se connaît tout. Ce n'est pas grave, je m'appelle Iras. Père, trois enfants et trois petits-enfants. Ben, dimanche, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez auditeur ou qui a des bonnes mémoires, j'ai prié, j'ai parlé la grandeur de Dieu. J'ai même parlé du chevet sur ma tête, je ne pouvais pas compter. Il est sur moi, il est avec moi, je ne pouvais pas le compter. Là, je voyais la grandeur de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de merveille. Des fois, je lis la Bible, ça ne me suffit pas. J'ai sorti de là pour garder la création. J'ai même dit la création dans mes prières. Mon témoignage, j'ai gardé longtemps. Je ne voulais pas témoigner. Mais le Saint-Esprit ne m'a laissé pas en paix. Il a dit, va dire aux autres. Peut-être que vous serez comme moi. Va dire aux autres. Qui je suis. Des fois, j'ai dit, qu'est-ce que je suis? Dieu, il a pensé à moi. Je suis qu'une poussière. Un petit, je suis tout petit devant Dieu. Et pourtant, il a pensé à moi. Il a pu penser à moi. Il y a un chant qui dit, je ne sais pas pourquoi, dans ta grâce, Dieu, il m'a aimé. Et je croyais, je suis passé. Il vous a aimé aussi. J'ai quitté Haïti en 88. Je suis marié en 87. En 88, j'ai regardé derrière comme quand vous êtes dans une voiture ou les conducteurs vous regardent en arrière, comme on n'a pas passé le permis. Les montagnes disent toujours regarder dans le retour là-haut, à côté, pour voir s'il n'y a pas d'un danger. Là, j'ai fini marié 3 octobre 87. J'ai regardé dans mon rétroviseur, je vis. Pour lever des enfants, pour donner manger dans le foyer, il faut avoir un travail. J'ai quitté Haïti. Je suis rentré en France en 88. J'ai laissé Vénite avec un bébé, tout petit. Je ne dis pas mon bien-aimé, comment mon cœur il déchire. Mais je n'ai pas de choix. J'ai fini ici, quand j'arrivais, j'ai allé à la préfecture et ils m'ont fait un récépissé. Mais les récipients, ils m'ont donné, la préfecture ne m'a pas le droit de travailler. Il faut que je travaille. Il faut que je mange. Il faut que j'ai envoyé à Bénit. J'ai débrouillé, j'ai trouvé une entreprise. L'entreprise, le patron n'a même pas regardé si même mon récipient, s'il n'a pas le droit de travailler. Parce que j'étais vraiment gay, je suis prêt à travailler. Travail, mais c'est dans des conditions difficiles. C'est là-haut, même 12 ou 13, 15 mètres de haut, à l'extérieur, dans l'échafaudage. C'est pas les feux, à l'étude, les feux, là, ils remontent avec les côtes. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous tombez, c'est la mort assurée. Il faisait froid, moi, février. J'ai sauté à Haïti dans le pays, 30 degrés, 40 degrés. J'ai tremblé. Je tremblais. Des fois, j'ai envie d'abandonner. Mais je n'ai pas abandonné. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débrouillé, j'ai trouvé un petit isolette, j'ai loué. J'ai vu une grande vide à côté de moi, parce que Vénite, elle est plus là. J'ai envoyé chercher Vénite. Vraiment, elle est arrivée avec l'enfant. J'étais tout content. Maison, je travaillais. Et bien, un jour, j'ai tombé malade. Je suis arrivé avec une fièvre, pas possible, je tremblais. J'avais un cousin qui m'a transporté à l'hôpital avec lui. Avec moi. Quand j'arrivais, je tremblais. La fièvre était 40. Le médecin dit, on va vous garder à l'hôpital. Il vient d'arriver en plus. Hein? Comme il a dit la société, quelle langue, j'ai dit, mais que j'ai amené venir avec les petits. L'hôpital me dit, ben, madame, mon gars, on va regarder votre mari. Quelle tristesse. Je venais de repartir chaque à la maison. Bon, je suis là, malade, ça a commencé, malade. Eh bien, bon, maintenant, j'étais à Villeneuve-Saint-Georges. Le médecin dit, monsieur, vous savez, je ne sais pas si c'est j'ai pris un coup de foie. Je n'arrive pas à manger. J'ai la fièvre ne tombe pas. J'ai à mon avis, il y a quelque chose qui est entré dans mon poumon, je ne sais pas. Puis j'ai travaillé dans des conditions poussières. Finalement, l'hôpital dit, monsieur, vous ne pouvez pas garder ici à Villeneuve-Saint-Georges, il n'y a pas de moyen. On va vous transporter à Bligny, à côté de Fontainebleau, 30 km peut-être, à 40 km de Paris. Venez de faire, viens d'arriver. Comment il va arriver au moins?
Il connaît le transport.
Hein? C'est pour dire comment Dieu est grand. Eh bien, l'Église, on a parlé de famille, l'Église, c'est une grande famille. Je vous dis, mes frères et sœurs, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a placé ici. Vous êtes dans une bonne place. Vous êtes bien placé. Il n'y a pas meilleur chemin là où vous êtes. C'est l'Église. Merci Seigneur, quand il a institué l'Église. J'ai à la bénir. Eh bien, il y a une voisine qui te me connaissait déjà. Et puis, il a parlé de la lumière. Vous êtes des chrétiens, je dis oui. Il dit, nous aussi, on est des chrétiens. C'est une femme haïtienne. Mais pourtant, Haïti, on habitait des distances. Hein? Parce que Haïti, c'est une grande Antille. Hein? Bon. Eh bien, elle a dit à Vénit, votre mari, allez loin, là. Est-ce que vous connaissez le transport pour aller? Imaginez, Vénit vient d'arriver avec un enfant. Non. Ben. Elle a dit, venez, je vais t'accompagner pour aller voir ton mari. Je sais comment c'est Dieu. Venez me voir. Elle a venu me voir avec ma voisine. Comme ça, tous les jours, venez me voir. Et bien, quand il y a un moment, je commence à dire à l'hôpital. Il y en a qui à l'hôpital, il m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas prêt à partir. Hein? Nous, on est là, ça fait 3 ans, 2 ans. C'est pour cette raison, quand Dieu il a parlé, il n'a jamais dit qu'on accepte Jésus comme notre sauveur, on va trouver les roses autour de la route. Des fois, je dis, est-ce que ce n'est pas Dieu qui provoque des choses, il nous fait passer dans un chemin incompréhensible pour nous ramener à notre maturité? Hein? On ne sait pas. La Bible dit dans Romains 11, 34 jusqu'à 36, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Personne. Personne n'a connu la pensée du Seigneur. Ben, je suis là. Il y a un moment, je suis venu me voir. Quand je regardais, j'ai dit, bon, viens pas tous les jours, ma belle, viens pas tous les jours. Viens un jour soudé. Il m'a dit oui. Donc, j'étais du mal à manger. Quand il dit, j'ai vu la porte de l'hôpital, il est poussé. C'est qui? C'est Vénie. Elle est là. Et j'étais tout petit, j'ai maigri, au point pour mourir. J'ai dit, Seigneur, je vais mourir, quitter Vénie. Comme ça vient d'arriver avec un enfant. Mais. Les messages de foi, les prédicateurs, ils prêchaient. Ça, c'est pour nous enrichir qu'en moment de difficulté. Je rappelle les messages entendus depuis Haïti, depuis ici. Mais on est sur la terre encore. On n'a pas encore obtient la perfection, toute la perfection. Mais Dieu est bon. J'ai dit dans ma prière, j'ai crié, Dieu est bon. Frères et sœurs, deux fois, quand j'ai chanté la louange, j'ai sauté, j'ai crié, c'est pas parce que je suis fou. Je viens vous dire ce matin, je suis pas fou. Oui, je suis pas fou. Alléluia! Je suis pas fou. Dieu, il sait, je sais pourquoi j'ai sauté. Je sais en qui j'ai cru. J'ai vu sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, un monsieur qui a sauté sur une actrice, c'est son fan. Il a sauté, il n'a pas honte. Moi, j'avais honte devant Dieu. Des fois, je suis au milieu, je chantais, des fois, venez, tu m'as mis des coudes.
Calme-toi.
J'ai dit, qu'on dit, mais j'ai dit, hé, dit-on. Hé, dit-on, moi, je ne vais pas savoir. J'ai loué mon Dieu. J'ai loué mon roi. Pour ce qu'il a fait pour moi. Ah, je ne suis pas fou. En plus, Dieu m'a donné une place en bas. Maintenant, je n'ai pas assez. J'ai pensé en bas. Ah oui, Dieu a fait ce prix, il m'a suscité une place. Ah, quel? Ouais, quand il t'appelle DG, je danse. Pour le Seigneur, je ne suis pas honte de sauter pour le Seigneur. Parce que j'ai ce en qui j'ai cru. Dieu m'a sorti. Dans le gouffre, oui, et j'ai sorti l'hôpital. Mais quand j'arrivais à la maison, ma petite maisonnette, le propriétaire m'a dit, on va vendre la maison, est-ce que vous voulez acheter? J'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon logement. Je suis en rien. J'ai fini comme ça, tout triste. Mais la soeur, il a dit, mon frère, je vais t'accueillir chez toi. Je vais t'accueillir chez moi. Malheureusement, elle est décédée. Il a porté par un cancer, malheureusement. Mais elle m'a accueilli chez elle. On est là. On est là, on prie. Des fois, venez qui est là. C'est une femme forte. C'est une femme courageuse. Il n'a jamais baissé les bras. Elle est là. Elle est là avec moi dans mon tristesse. Il faut passer des moments difficiles. Elle ne dirait pas, il est dans son humilité, ça ne paraît pas. Mais Vénite, c'est une femme forte. Elle ne dirait pas. C'est Dieu qui m'a donné cette femme-là. Je vous dis, si vous avez un conjoint ou conjointe à côté de vous, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a donné. C'est l'aile de Dieu. Si vous avez connu un frère, avant je ne connais pas Eric, je ne connais pas Serge, je ne connais pas Eric, tant d'autres, je passe. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu donne un enfant, ce n'est pas un hasard. C'est une grâce. Si Dieu donne une sœur à côté de toi, un voisin, c'est une grâce. Je sais pour vous encourager. Si vous êtes en train de passer un moment difficile, amen, maladie, ou du moins au niveau travail, au niveau de votre entourage, ne décourage pas. La Bible, il y a un chant que j'aimerais bien, des fois il chante, c'est dit, quand la mer est déchaînée, Dieu n'a pas dit qu'il va couler, mais il a dit passer l'autre bord. Passer l'autre bord. Amen. Merci, pasteur.
Merci.
Eh bien, soyez forts dans le Seigneur. C'est un Dieu fidèle,
amen,
un Dieu fort, un Dieu d'amour. Il ne nous abandonne jamais, quel que soit la circonstance, il ne nous délaissera jamais. Il est avec nous tous les jusqu'à la
fin. Il n'est pas fou, le frère.
Sois béni, pasteur.
Notre frère vient de loin, mais Dieu est fidèle. Il fait partie de ceux dont on dit en France qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Et Dieu l'a gardé jusqu'à ce jour. Il a pris sa retraite, ses enfants lui ont dit, papa, prends ta retraite.
Yes.
Donc il sait d'où il vient. Janine. Alléluia.
Alors après tout ça, je vais vraiment faire court. je viens aussi donner gloire à notre Dieu. Et les deux chants, les deux derniers chants que nous venons de chanter, vraiment, ce sont des chants qui m'ont accompagné pendant cette difficulté que je vivais avec mon époux et mes enfants. Donc, plusieurs d'entre vous connaissiez que j'ai un patron qui est très dur, très difficile avec ses employés. Donc, j'avais plus ou moins partagé ça avec quelques-uns d'entre vous et certains m'avaient accompagné dans la prière par rapport à ça. Parce que j'ai un patron qui n'hésitait pas à inciter les gens à démissionner, à les acculer pour qu'ils puissent démissionner. Donc, tous les jours, j'étais en prière pour ça, pour cette difficulté-là que nous avions au travail par rapport à des collègues qui vivaient des situations très complexes avec lui. Et se trouve-t-il que c'était mon tour. Au mois de le 22 décembre, j'ai une de mes collègues qui m'appelle à la maison. Enfin, je n'étais pas à la maison, mais enfin, elle m'appelle. Et elle me dit que M. Roger, qui s'appelle, donc, il me dit, M. Roger, t'as mis à pied. Alors, là, je dis, mais comme ça, mis à pied, mais pourquoi elle m'a dit, je ne sais pas, il nous a convoqué exprès pour ça. Il nous a invité exprès pour ça à déjeuner et il nous a annoncé fièrement qu'il t'a mise à pied. J'ai pas paniqué, hein, parce que voilà, j'ai la foi en mon Dieu. Et donc, quand je reçois le courrier, vous savez, quand vous recevez un courrier, je suis infirmière, donc c'est une précision que je dois, qui est importante, parce que quand votre patron écrit pour faute grave, on s'est dit,
bon. Qui j'ai tué ?
C'est ça. Est-ce que j'ai donné quelque chose et quelqu'un est mort ? Mais en même temps, j'avais la paix. Je me suis posé la question. Faute grave ! Donc, quand on pense à faute grave, c'est ça en fait. Quelqu'un est mort. J'ai reçu ce courrier et le soir même, j'étais vraiment dans la paix, je dis à mon mari. Voilà, le patron m'a mis à pied. Et donc, ça veut dire, qui dit mise à pied, zéro revenu. On est en fin d'année, zéro revenu. Et donc, je dis à mon époux, on ne va pas paniquer. On va rester dans la paix, on va rester dans le calme. Et effectivement, quand on reçoit le courrier, voilà, donc pour une période X. Il me convoque donc le 28 et donc je lui écris le 28 décembre et je lui écris qu'il y a un délai à respecter entre le courrier et le rendez-vous. Vous me laissez que 2 jours, je ne peux avoir personne pour me défendre, donc c'est la période des fêtes, tout le monde part en vacances, donc les représentants de salariés, il n'y en avait aucun de disponible. Donc voilà pour et donc il me convoque du coup le 9 janvier. Et le 9 janvier, donc il nous dit toutes les griefs, on va dire, qu'il avait notés. Alors, ce sont les griefs, on va dire, je ne vais pas vous les énumérer, mais on va dire en fait que c'est, on va dire, une invention. Et c'est toujours, en plus, c'est un événement, il s'est appuyé sur un événement qui s'est passé au mois d'octobre, plus de 2 mois en arrière. Donc, pour vous dire en fait qu'il avait une intention et il a attrapé un événement. Et je ne peux pas trop donner le détail parce qu'il y a le nom de résident et tout ça, et je n'ai pas le droit de donner des détails. Donc, plus de 2 mois, alors je me dis, mais on me convoque, on me dit faute grave, mais si c'est une faute grave, on t'arrête tout de suite en fait. Si c'est une faute grave, on vous dit, madame, vous venez dans notre bureau et on vous donne le papier tout de suite, mais ça n'a pas été fait comme ça, je reçois un courrier à la maison. Bon, quand on dit faute grave, enfin. Le Seigneur est tellement a été depuis le début, le Seigneur a été avec nous dans cette affaire-là. Donc le 9 janvier, il me reçoit pour un rendez-vous pré-licenciement et je lui demande, est-ce que l'inspection du travail est au courant de la procédure